Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît ? Eh ben on garde ce rythme, c'est parti ! Alors aujourd'hui, je suis avec Bartholomé Lenoir, qui a fondé la Chaise Française, qui défend le savoir-faire français, comme son nom l'indique, mais aussi un engagement éco-responsable. Bonjour Bartholomé.
Bonjour Hortense.
Alors, vous existez, enfin la Chaise Française existe depuis 3 ans maintenant. Quelle est son histoire ? Toi, quelle était ton envie, tes objectifs au début ?
Bah, écoute, à l'origine, je travaillais pour l'industrie du plastique en France. Et en gros, des clients historiques de cette entreprise étaient des fabricants de chaises d'injection classique. Et en fait, j'avais rencontré ces clients et j'avais vu et découvert, si tu veux, la terrible détresse dans laquelle ils se trouvaient parce qu'il y avait quasiment plus de fabrication. Beaucoup de produits étaient fabriqués en Chine et ils avaient vu au fur et à mesure du temps une dégringolade de leurs commandes. Et donc, j'avais été assez touché par leurs histoires et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour ne pas perdre la fabrication de chaises comme savoir-faire en France. Parce qu'on en est là aujourd'hui. La fabrication de chaises, c'est vraiment devenu très, très compliqué de façon industrielle comparé aux Chinois. C'est le meuble le plus en danger en France. Comparé, quand on discute avec des professionnels, souvent ils disent, par contre, sur la chaise, on ne pourra pas faire fabriquer en France parce que c'est impossible et tout ça. Donc nous, c'était ce constat-là que j'avais fait m'a animé et je me suis dit, faut faire quelque chose là-dessus en 2017. Et malheureusement, évidemment, comme il n'y a quasiment plus de fabricants, j'ai eu vachement de mal. Donc on a eu l'idée de faire la Chaise Française à l'époque avec mon premier associé qui était Jean-Baptiste Chancerel. On s'est dit, il faut qu'on fasse un produit annexe parce que c'était des frais de développement énormes. Et nous, on était tout petits, donc on n'avait pas d'argent. Donc on a fait d'abord un tabouret qui était une réinvention du tabouret de traite des vaches que tu montes avec un maillet, qu'on a toujours aussi en référence, et qui a très bien marché, qui a lancé la marque. Mais évidemment, c'était un peu bizarre, si tu veux, c'était pas des chaises. Et au fur et à mesure du temps, donc on a prospéré un peu sur ce tabouret-là, et on s'est dit, au bout de 1 an et demi, maintenant, on peut se lancer, on a plus d'argent, on va faire de la chaise. Donc on a appelé, donc là, on était, tu vois, plutôt un éditeur, et là, on a appelé les fabricants qui restaient, on leur a dit, on a un peu plus d'argent, est-ce qu'on peut développer en commun une chaise ? Et donc, on est parti avec un des fabricants qui était un fabricant en Vendée. Et on a développé une chaise bistrot qui n'existe plus aujourd'hui. Puisque, justement, avec la crise du Covid, ce fabricant-là a déposé le bilan. Et a été même pas... personne n'a pu le sauver puisque ça a été liquidé en septembre avec 70 personnes qui ont été sur le carreau. Donc, c'était un peu terrible. Et ça a été une année, du coup, charnière pour nous cette année-là parce qu'on s'est rapproché d'un des derniers et des plus anciens fabricants de chaises. Là, pour une association, en se disant, il faut qu'on sécurise notre approvisionnement, parce qu'on est vraiment au moment où on peut perdre le savoir-faire dans la fabrication de chaises. Et avec ce fabricant-là, on s'est associé et on a décidé de lancer une gamme très récemment, beaucoup plus complète, et maintenant on fait que de la chaise.
Et pourquoi que de la chaise, justement ? Parce qu'en plus, c'était difficile, donc ça aurait pu te freiner.
Justement, c'était difficile. C'est pour ça qu'on voulait le faire. C'est parce que, justement, c'était impossible, parce que, justement, c'est ce savoir-faire allait disparaître qu'il fallait le faire, si tu veux. S'il y avait encore 150 fabricants de chaises, en plus, la chaise est un meuble emblématique et magnifique et tout le monde adore la chaise, mais c'est d'autant plus parce que c'est impossible qu'il faut qu'on le fasse. Et c'est ça qui est notre motivation.
Alors, ce sont des chaises qui sont 100% fabriquées en France, où exactement ?
Alors, elles sont fabriquées dans l'Est de la France, dans l'Aube exactement. Et donc, il y a l'usine là-bas, qu'on appelle la manufacture, nous, parce qu'on aime bien dire ce mot-là qui est plus ancien. C'est une manufacture qui date du début du XXe siècle, et dont un des bâtiments, d'ailleurs, a été fabriqué, lancé, construit par Gustave Eiffel. Donc, pour te donner l'historique du bâtiment. Donc, c'est fabriqué là-bas. Il y a aussi l'usine qui découpe, déroule le bois et qui est à proximité dans l'Aube, juste à côté, à 5 km. Et le bois provient de maximum 150 km à la ronde de l'usine. Donc c'est dans une zone un peu, tu vois, de forêt dans l'Aube.
D'accord, donc c'est un circuit plutôt court.
Ultra court, tu peux pas faire plus court que ce qu'on fait. C'est 150 km maximum, le bois va à l'usine et après c'est distribué en France directement de l'usine au client. On a coupé tous les intermédiaires de distribution, de logistique, et on a fait un effort énorme, c'est d'autres compétences dans l'entreprise pour pouvoir distribuer directement depuis l'usine jusqu'à notre client.
Mais vous vendez où alors, si on veut trouver une de vos chaises, où est-ce qu'on peut l'acheter?
Tu as 2-3 possibilités. La première, c'est le site internet, où tu as tous les modèles et directement accessible. Quand tu commandes la chaise sur internet, elle est lancée en fabrication. C'est très rapide parce que c'est français et proche de toi en fait. Donc là, c'est lancé, il faut à peu près attendre 2 semaines et c'est envoyé directement depuis l'usine avec un petit mot qui explique qui a fabriqué cette chaise, à quel moment pour toi. Donc c'est ce que tu as commandé qui est fabriqué. Ça, c'est le premier réseau de distribution. Ensuite, il y a un deuxième réseau qui est très important pour nous, c'est donc le contract. Donc ça, ce sont les entreprises qui travaillent directement avec nous ou via des architectes qui ont des projets et qui vont faire appel à nos produits parce que nos produits répondent à des exigences stylistiques, mais aussi beaucoup d'entreprises de plus en plus veulent des produits locaux. Et donc, il y a ce réseau-là de professionnels avec qui on travaille.
On met combien de temps pour fabriquer une chaise ?
Alors, une chaise, si tu veux, ça prend très peu de temps pour la fin. Pas peu de temps, mais pour la fabrication finale. Puisque, en fait, on va fabriquer des parties de la chaise en assez grande quantité. Et ensuite, on va venir l'assembler au moment où elle est commandée. Donc, pour une chaise que tu commandes sur Internet, ça va mettre à peu près 2-3 jours. Tu vas être fabriqué de A à Z. Mais en réel, dans la réalité, en fait, il va falloir avoir découpé le bois, il va falloir faire beaucoup de choses. Donc, une chaise, c'est quelque chose qui est suivi pendant à minima un mois, avant, depuis le déroulage du bois, la découpe, le séchage et tout ça. Enfin, tout ça, ça prend un certain temps qui est au minimum d'un mois.
Donc, tout est artisanal.
Alors, le mot artisanal, nous, on est vraiment, donc, c'est pour ça qu'on parle de manufacture. On est capable, artisanal, c'est très vite très très cher. Nous, on veut maintenir, si tu veux, la manufacture. Donc, il y a un aspect un peu plus de quantité. Donc, on peut répondre. C'est pour ça, tu vois, une entreprise qui a besoin de 200 chaises, on peut le faire. Donc, on n'est pas artisanal. Il y a beaucoup de personnes à l'usine. Il y a 90 personnes. Donc, on n'est pas que dans le artisanal. En revanche, on a adapté notre outil pour faire une réponse beaucoup plus spécifique qui colle effectivement à l'artisanat.
Vous avez racheté cette manufacture, c'est ça ? Elle existait déjà ?
Non, on ne l'a pas rachetée, on s'est associés. S'est associés l'un avec l'autre pour travailler ensemble sur ce projet de la chaise française.
Vous êtes donc très engagé sur le côté éco-responsable. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur vos engagements ?
Effectivement, on est hyper engagé. Le côté éco-responsable, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le produit. Il faut être éco-responsable sur le produit. Donc, ça veut dire, nous, toutes nos chaises, tous les déchets que génèrent nos chaises, quand tu as des découpes, tu as des pertes de bois, tout ça est récupéré. Donc, d'abord, c'est la première chose pour nous de l'éco-responsabilité, c'est de ne pas avoir de déchets, si tu veux, quand on fabrique la chaise. Ensuite, il y a les produits ajoutés dans les chaises. Nous, on a fait un travail pour justement qu'il y ait beaucoup moins de produits chimiques. Donc là, on travaille avec de la peinture à l'eau. Et je rassure tout le monde, c'est de la qualité, mais incroyable. Et donc, il n'y a pas de produits chimiques. En plus, tu peux respirer ta chaise maintenant tranquillement. Alors qu'avant, il y avait de la colle, c'était plus compliqué. Et donc, du coup, on a fait un travail éco-responsable sur le produit avec ces deux développements. De ne pas avoir de déchets, en tout cas, de tous les récupérer et d'avoir de la peinture à l'eau. On est aussi éco-responsable parce que, si tu veux, on travaille avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc, notre bois est sourcé durablement et ça, c'est hyper important qu'en France. Et dans cette forêt-là, on va venir planter des arbres à chaque fois qu'une chaise est vendue. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est un mécénat. Donc, quand une entreprise décide pour un siège social, j'en sais rien, de faire 200 chaises avec nous, on va lui apporter la certification que elle devient aussi mécène puisqu'elle va faire planter 200 arbres dans la forêt gérée durablement française avec qui on travaille.
D'où ça te vient, cette sensibilité green ?
Écoute, je pense que ça me vient comme beaucoup de gens de ma génération du fait que je suis né dans les débuts des années 90, on est né avec le Made in China. C'est-à-dire qu'on est né avec ce que j'appelle un délire qui est devenu n'importe quoi, de produits très cheap, et qui viennent de nulle part et en fait de qui n'ont plus du tout de sens. Et donc moi au début je vivais avec ça, avec mon Walkman comme tout le monde. Et puis depuis, en école de commerce, j'ai trouvé que c'était quand j'ai commencé à chercher un boulot, je me suis dit mais vraiment c'est, j'ai pas envie de faire ça quoi, j'ai pas envie de bosser là-dedans parce que ça vraiment ça correspond pas du tout à toute mon éducation, elle était là-dedans et j'en avais marre et ça correspondait pas du tout au sens que je voulais trouver. Et ça me vient encore plus aujourd'hui, parce que ça, personne n'en parle. Mais si tu veux, tout le monde dit, tout le monde est green, c'est beaucoup mieux. Mais en réalité, derrière les messages green de grandes enseignes très connues, c'est encore pire qu'avant. C'est là, aujourd'hui, tout le monde parle du Made in France. J'en suis le premier à vouloir en parler. Mais le Made in China est en train d'exploser en termes d'exportation vers la France. Donc, si tu veux, ça aussi, ça m'a vraiment motivé. C'est que je me suis rendu compte que on n'est pas du tout encore au moment du changement, quoi. Donc, je me suis dit, il faut faire des trucs, et donc, voilà.
On est vraiment à l'aube pour toi.
On n'est même pas à l'aube, là. On est là, vraiment, ça, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. Tu vois, je te dis, au début de l'interview, il y a un fabricant qui a déposé le bilan. On est vraiment au moment, au contraire, on est en train de toucher le sol, quoi. Et c'est hyper bien que tout le monde en parle, mais maintenant, il faut que tout le monde en achète, quoi.
Et agisse.
Exactement, et agissent.
Alors, en termes de style, on n'en a pas encore parlé. La directrice artistique, c'est Margot Keller. Pourquoi elle ?
Bah écoute, Margot, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? On l'adore, en plus.
Non, parce que d'abord, Margot, j'avais eu l'occasion, comme je te le disais, d'écouter ton podcast avec Margot, donc qui m'avait permis aussi de la découvrir. Et donc, Margot, c'était d'abord un fit. Au début, je me suis vraiment dit, c'est une fille qui a l'air sympa. Et après, je suis allé évidemment plus loin dans son travail. Et justement, elle donne beaucoup de sens à ce qu'elle fait dans la création des produits. C'est pas juste, si tu veux, un design qui est juste beau. Il y a aussi une évocation, il y a un sens. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi, pour les chaises. Parce qu'elles ont un sens dans leur fondement, mais elles doivent avoir un sens aussi dans leur design. Et donc, avec Margot, je trouvais que ça permettait de travailler avec elle, d'avoir un sens du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'on s'est contacté, tu vois, l'année dernière. Et elle, justement, elle était parfaitement en adéquation avec cette idée-là de faire fabriquer localement et de donner du sens à tout le produit dans son ensemble. Donc voilà.
Et comment vous avez travaillé ensemble ? Tu lui as donné carte blanche ? Comment elle a pensé les modèles ?
Alors, c'était hyper intéressant. On a, si tu veux, on lui a dit, nous, il faut qu'on rentre dans une économie d'échelle. Donc, parce que je ne veux pas qu'on fasse un Made in France élitiste. Donc, c'était la premier brief. C'est on fait des chaises qui restent accessibles en prix. On ne fait pas des chaises à 1000 euros. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut rentrer dans une économie d'échelle, donc rentrer sur un volume dans lequel, si tu veux, tu vas réussir à avoir un coût de fabrication qui reste acceptable. Donc, on a beaucoup travaillé avec Margot sur les découpes, en essayant de garder un moule unique. Bon, c'est pas le cas, on a deux moules aujourd'hui, mais en fait, sur un moule, on va venir extraire des chaises qui sont très différentes, grâce au système de découpe et qui nous permet d'atteindre des prix accessibles. Donc c'est vraiment ça qui a été le brief de Margot, de partir d'une base, d'un diamant brut. Et par contre, elle a que ce diamant-là. Il faut qu'elle fasse à l'intérieur plein de petits diamants beaucoup plus travaillés. Et donc ça a été ça son brief. Et après, je lui ai laissé totale carte blanche. On a fait le choix. Elle avait fait plusieurs propositions. Et on a fait le choix ensemble de construire une gamme cohérente. D'avoir des prix qui sont progressifs, des qualités qui sont progressives, des teintes qui soient un peu différentes. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et voilà. Ça, on l'a un peu plus fait ensemble pour pouvoir coller au marché quand même.
Donc là, on en parle, mais on ne voit pas comment tu décrirais le style de tes chaises. Combien il y a de modèles ?
Alors, il y a une quinzaine de modèles. Le style, pour moi, il est contemporain. Et donc, si tu veux, c'est des courbes, c'est des dessins qui sont, à mon avis, assez originaux par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et aussi, il y a un truc dans le style auquel je suis hyper attaché, c'est que tu vois la qualité. C'est-à-dire que stylistiquement, elle est de qualité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand tu vois cette chaise, tu vois que c'est un produit qui est de magnifique qualité, qui est un bois et ça... Et quand tu fais une belle découpe, tu vas laisser transparaître une partie de la chaise qui est, tu vois, la partie latérale et qui va montrer cette qualité-là. Et donc, le design met en avant cette qualité aussi.
Donc, si y a des modèles qui sont vraiment sympas, il y a des modèles enfants aussi. Alors, imaginons, je commande mon modèle, je le reçois, je dois le monter ou la chaise arrive telle qu'elle ?
Alors, ça dépend des modèles, mais en règle générale, tu as un montage très simple. qui dure après à peu près 2 minutes. T'as une petite clé Allen et tu dois monter. Donc t'as les pieds et la coque, et donc tu mets la coque sur les pieds, tu montes les pieds. C'est très très rapide et très simple. Et ce qui permet une livraison très facile.
Ok. Eh ben merci beaucoup, Bartholomé.
Mais je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu.
Au revoir.
Ciao.
Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Une nouvelle manière de consommer le design, c'est le principe de Yours.co, un site qui permet de louer des pièces cultes du design. Son fondateur, Franck Malaise, va nous expliquer ce concept. Bonjour Franck.
Bonjour Hortense.
Alors, comment vous est venue l'idée de ce projet ? On attaque comme ça, racontez-nous l'histoire de Yours.
Alors en fait, c'est venu d'une discussion avec Françoise Novelle, qui est cofondatrice de Yours, qui est architecte de formation, passionnée de design comme moi. Et puis, elle a des enfants qui sont en âge de s'installer, qui ont un peu plus de 20 ans, 25 ans. Et je connais Françoise depuis de nombreuses années. Et puis un jour, elle me dit, mes enfants ont vécu chez moi, chez mon mari, avec de très beaux meubles, de très grands éditeurs, ils ont grandi avec ces meubles. Et puis là, j'ai mon fils qui veut s'installer et qui me dit, mais maman, j'aimerais bien partir avec ce canapé, j'aimerais bien m'offrir cette chaise de IMS, ce lounge chair, etc. Et Françoise de dire, mais mon petit chéri, il va falloir que tu travailles, tu économises, et puis peut-être que quand tu auras 30 ans, tu pourras te les payer. Et puis avec cette réflexion, on en est venu à se dire, mais finalement, toute cette génération de gens qui ont moins de 30 ans, moins de 35 ans, qui ont grandi dans une culture design sans être forcément des experts, des connaisseurs, peuvent avoir envie de vivre avec du beau sans avoir les moyens de se l'offrir. Et c'est des gens qui sont habitués à l'économie de l'usage plus qu'à l'économie de la propriété. Ils ont plus envie de se dire, j'ai envie de profiter d'un service ou d'un bien, comme ils le font avec la musique. Aujourd'hui, on n'achète plus ou très peu de disques, on n'achète pas de films ou de DVD, on va s'abonner à des services de streaming. Et comme la voiture, eh bien maintenant, ça devient presque surprenant d'acheter une voiture, on va la prendre en leasing, la louer, le temps de notre besoin. Et ben on s'est dit, finalement, sur le mobilier, il y a sans doute quelque chose à faire pour permettre à toute cette génération, et puis plus loin aussi, des personnes plus âgées, mais aussi des professionnels, de profiter de l'usage et finalement réaliser son rêve de vivre avec des très belles pièces de design sans avoir les moyens de se l'offrir. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Yours, d'être la première plateforme d'abonnement, de souscription au mobilier et aux luminaires iconiques et contemporains.
Mais alors concrètement, comment ça se passe ? Quelle est la procédure ? Moi là, si j'ai envie de louer, qu'est-ce que je peux louer et où je dois aller ?
Alors vous allez sur la plateforme donc yours.co. Yours d'ailleurs, le nom veut dire c'est à moi, c'est presque à moi, yours, it's yours, sauf qu'on a rajouté un E à la fin, donc yours.co. Vous allez sur cette plateforme et puis vous avez accès à un catalogue, à une boutique en ligne, tout simplement, tout est digital. Vous allez faire votre choix, soit par designer, soit par éditeur, puisqu'on travaille donc avec les grands éditeurs de la place, et vous allez sélectionner les meubles qui vous intéressent ou les luminaires qui vous intéressent, et puis vous allez faire une simulation. C'est-à-dire que vous allez dire, tiens, moi, j'ai plutôt envie de le louer sur 1 an, 2 ans, etc. Ça va de 1 an à 5 ans. En fonction de ce que vous projetez que sera votre vie. C'est-à-dire que, je sais pas, vous venez d'emménager à Paris, en coloc, mais vous savez que ça va pas durer 10 ans. Donc, pour les 3 prochaines années, vous dites, je suis en coloc, c'est bien, mais j'ai envie aussi d'avoir du beau mobilier. Et donc, vous faites cette simulation, vous choisissez la durée. Vous choisissez également ce qu'on appelle la valeur résiduelle, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez payer à la toute fin du leasing si vous souhaitez garder la pièce. Parce que tout le principe, c'est de dire, je suis locataire, mais à la fin, je peux décider de garder la pièce.
Ou de l'acheter.
Ouais. Et de l'acheter pour un prix qui est pas comme si vous l'achetiez comptant, puisque vous aurez déjà payé pendant un certain nombre d'années un loyer. Donc vous allez l'acheter, et en général, la valeur résiduelle, c'est-à-dire le montant que vous allez devoir payer pour en être propriétaire à la fin, c'est de l'ordre de 5 à 10% de sa valeur d'origine. Donc c'est un tout petit effort. Donc vous allez simuler ce montant de loyer, et puis ensuite vous faites confirmer, on va vous demander votre pièce d'identité, enfin on va vous demander de télécharger votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, Et puis c'est parti. Et quelques semaines plus tard, puisque ce sont des pièces qui sont fabriquées à la commande, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir un coffret qui vous dit ces pièces, voilà leur histoire, voilà leur origine, leur authenticité, et puis des conseils d'entretien, parce que c'est des pièces qu'il faut entretenir, qu'il faut maintenir. Et puis vous allez être livré avec une équipe qui vient avec des gants blancs, c'est une livraison gants blancs, pour vous installer vos meubles, vos luminaires, repartir avec les éventuellement d'anciens meubles, dont on fait d'ailleurs le don à des associations si vous souhaitez vous débarrasser de vos anciens meubles, plutôt que de les mettre à la décharge. Il y a près de 2 millions de tonnes par an de meubles qui sont jetés, et donc ça c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et voilà, et ensuite vous vivez votre expérience, et puis à la fin vous décidez, bah tiens, je change, j'en ai marre de ce canapé bleu, je veux changer, donc je continue, je pars sur un nouveau leasing, ou alors bah, je veux les acheter, et du coup je débourse cette petite somme à la fin pour en rester propriétaire.
Mais ce sont des meubles cultes du design, je disais en intro, mais du coup, ce sont des rééditions, ce sont des nouveautés ou ce sont des meubles que vous avez chinés? D'où viennent-ils?
Alors, ce sont des meubles, effectivement, de réédition. On a commencé l'aventure Yours avec des meubles qu'on a appelés iconiques, donc des meubles qui parlent à tout le monde, dont on ne met pas forcément le nom du designer ou le nom de la pièce derrière, forcément, parce qu'on n'est pas forcément connaisseur, mais on les a tous vus dans les magazines, dans les films, dans les expos, etc., dans les musées, parfois. Donc, les meubles cultes et iconiques. Ils sont réédités par des grandes maisons d'édition qui ont les droits exclusifs, hein, donc on est bien sur des meubles authentiques. Donc les Cassina, les Molteni, les Capellini, les Vitra, etc. Et Serge Mouille, etc. Et donc ce sont des meubles qui viennent de ces grandes maisons d'édition. Et puis ensuite on a très vite développé également une gamme de mobilier contemporain, donc des choses qui sont moins cultes, mais faites par des designers vivants, tout oui. simplement. Aussi de grandes maisons d'édition. Et puis on va maintenant vers ce qu'on appelle l'avant-garde, donc des designers et des marques un peu plus pointues, un peu moins connues du grand public, mais on sent que notre audience, nos abonnés, nos membres recherchent ça et sont curieux des nouveautés, des choses un peu plus pointues et veulent pouvoir combiner des pièces iconiques dont ils ont toujours rêvé avec des pièces beaucoup plus modernes, avant-garde et contemporaines.
Donc, vous parlez de mobilier, il n'y a que du mobilier et du luminaire.
Mobilier...
Enfin, je dis que, ce n'est pas une critique. Hein,
En fait, on a fait une sélection assez fine, effectivement, de mobilier. C'est-à-dire que chez les éditeurs dont je vous ai parlé, on va nous-mêmes sélectionner les pièces qui nous intéressent et qui nous paraissent les plus soit iconiques, soit intéressantes, pour X ou Y raison. Donc, c'est à peu près 600 références aujourd'hui. Du luminaire, donc on travaille avec des éditeurs de luminaire. Et puis, de l'accessoire et notamment du tapis.
Et alors, ces marques partenaires avec lesquelles vous travaillez, elles n'ont pas l'habitude, en fait, vous proposez de louer des meubles. Comment vous avez été accueillis?
Alors, c'est une excellente question parce que c'était notre crainte principale d'arriver un peu comme un chien dans un jeu de quilles dans ce monde du mobilier. Et donc, on est allé voir les grands éditeurs en leur proposant ce modèle. Et en fait, on a été très, très bien accueillis. Très, très bien accueillis. On était à ce moment-là avant la période difficile qu'on a connue en 2020, c'est-à-dire c'était tout fin 2019, début 2020. On va voir ces éditeurs à Milan, à Paris, etc. Et les éditeurs nous disent, mais très très bonne idée, d'abord parce qu'on n'arrive pas tellement à parler à cette génération un peu plus jeune qui n'a pas l'habitude d'aller dans les showrooms du boulevard Saint-Germain ou ailleurs. C'est un peu intimidant hein, pour quelqu'un qui n'est pas très très connaisseur du design. Donc, très intéressant pour eux parce qu'ils se disent on va parler à cette génération à laquelle on parle difficilement. Ensuite, et ça c'est un point qu'on met énormément en avant, c'est que le problème de ces éditeurs, c'est que aujourd'hui quelqu'un qui a pas les moyens d'acheter du design, eh bien malheureusement il se tourne vers soit de la copie. Et aujourd'hui, c'était quand même un énorme problème sur les pièces iconiques. Et les éditeurs souffrent énormément de ce problème-là. Et la copie, c'est pas simplement parce que c'est de la copie, c'est parce que souvent c'est de la mauvaise copie, parce que la qualité n'est pas la même, parce que ça dénature l'image et l'histoire que le designer a mis dans ses pièces. Donc, le fait de rendre accessible, de rendre démocratique d'une certaine manière le design, ça plaît énormément aux éditeurs. Ça leur permet de se dire, plutôt que d'aller acheter de la copie, ils vont pouvoir venir et puis être fidélisés, et puis s'intéresser au design, développer leur culture. Voilà, donc les éditeurs nous ont très très bien accueillis.
Vous parlez beaucoup des jeunes, imaginons. Alors moi, j'ai 40 ans, je fais une soirée et j'ai envie d'impressionner avec trois meubles un peu cultes comme ça. Est-ce que je peux louer ou non? C'est vraiment pour un an, c'est pour une longue durée.
Alors, on est parti sur effectivement des durées qui vont de 12 mois à 60 mois, mais on a une demande qui grandit sur la courte durée. Alors, sur une journée, on ne va pas le faire. On ne le fait pas parce que on aurait affaire à un marché qui est différent du nôtre, c'est-à-dire l'événementiel, moins de passionnés, et donc avec un risque que le mobilier soit vite dégradé. En revanche, sur des durées un peu plus courtes, de quelques semaines, quelques mois, ça y est, on est capable de le faire. Et donc, pas sur l'ensemble du catalogue. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout le catalogue, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on stocke toutes ces pièces-là. Et aujourd'hui, on est un peu jeune, un peu petit, pour avoir la trésorerie qui nous permet de le faire. En revanche, sur une sélection assez fine de pièces, on est capable de les proposer sur quelques semaines à quelques mois.
Et vous ciblez aussi les entreprises, j'imagine, les hôtels, les bureaux, etc.
Absolument. Ouais, en fait, on se rend compte que le leasing, donc la capacité de, au bout de quelques années de changer, intéresse forcément les entreprises qui se disent je suis une agence de com, j'ai besoin d'avoir un accueil digne de ce nom, qui correspond à mon image, etc. Mais j'ai pas envie d'investir. Donc les entreprises s'intéressent beaucoup à ce modèle-là. L'hospitality, les hôtels, effectivement, les espaces de coworking, de co-living maintenant, s'intéressent beaucoup à ce modèle et donc sont nos clients. Et également tous les prescripteurs, c'est-à-dire les architectes, les décorateurs, qui se disent, mais finalement, le mobilier est toujours un peu la variable d'ajustement négative en fin de projet. C'est-à-dire que un décorateur pour un particulier ou une entreprise fait un appartement ou un lieu, souvent les délais s'allongent, les budgets sont un peu dépassés ou voire explosés, et le mobilier, eh bien à la fin, on décide de prendre plutôt une version dégradée de ce dont l'architecte avait envie. Donc le leasing, ça permet d'aller au bout de son projet parce que ça va faire un effort financier beaucoup moins important pour le client. Et en plus, pour les entreprises, le leasing, sans rentrer dans l'ingénierie financière, mais ça rentre dans des charges de dépenses pour les entreprises plutôt que des investissements. Donc ça permet, il y a un impact fiscal positif pour les entreprises, très intéressant du leasing.
J'ai vu sur le site aussi, vous me proposez un kit home office qui s'ancre bien dans la réalité, parce qu'on est nombreux à travailler chez nous.
Ouais, absolument. Le home office, en fait, on est né pendant la période du Covid. Enfin, on a lancé réellement commercialement en juin 2020. Juillet même 2020, et les entreprises ne pouvaient pas, enfin les quelques contacts qu'au départ qu'on a eu avec les entreprises elles nous disaient mais on a du mal à laisser travailler les gens sur la table de la cuisine avec une ergonomie qui est pas la meilleure, avec un confort de travail et une efficacité qui est donc dégradée. Et donc très vite on a constitué des packs, des combinaisons, des sets, parce que c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit travailler sur des choses qui sont LED, et en plus quand c'est chez soi, on a envie que ça corresponde à ses goûts et à son intérieur. Donc on a lancé effectivement des packs et on peut travailler très bien sur un bureau prouvé ou périant avec une chaise et des accoudoirs, ce qu'il faut absolument des accoudoirs quand on travaille, c'est beaucoup plus confortable, ça fait moins mal au cou et au dos, et puis un point lumineux, une lampe. Donc on a créé des packs qui vont de 40 euros par mois, je crois, ça commence pour avec des choses de Marcel Breuer. Ça peut aller évidemment très loin, à 200-250 euros par mois.
Oui, alors vous dites que vous avez lancé le site au printemps 2020, donc quand même un peu en pleine crise. Comment s'est passé le lancement?
Alors, c'est vrai que c'était une période compliquée. On a décalé le lancement qui devait avoir lieu en mars 2020. Donc, on l'a décalé effectivement à la fin du printemps, début d'été. Ça s'est pas si mal passé que cela parce que, en réalité, d'abord, ça a permis aux éditeurs de tous être convaincus du modèle et donc de l'urgence de se digitaliser. On a quand même affaire, sauf exception, à un secteur qui est un peu traditionnel. Je parle des grands éditeurs de mobilier iconique. Et donc le premier confinement les a poussés à se digitaliser et à être convaincus par un modèle comme celui d'Yours. Et puis ensuite, ça, chez nos clients, une partie de nos clients qui sont les particuliers, on s'est tous concentrés sur son intérieur. On a tous vu l'importance d'être bien chez soi et d'avoir des meubles qui nous plaisent, qui nous conviennent. Donc il y a eu tout de suite une appétence, une attirance pour le modèle parce que ça correspondait finalement assez bien à la période. Le télétravail notamment, ça a été un booster de croissance pour nous. Et puis très vite, les particuliers sont venus. Ce qui prend un peu plus de temps, c'est des gros projets corporate parce que forcément, les entreprises sont un peu vides en ce moment, les bureaux sont un peu vides. Mais mais en revanche, le monde de l'hospitality est très intéressé parce qu'ils ont profité de cette période-là pour refaire les hôtels, pour refaire les intérieurs, avant réouverture, on espère très vite.
Mais on est encore au mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ?
Alors déjà, qu'on oublie cette période un peu difficile pour tout le monde et qu'on puisse rencontrer nos clients très vite, rencontrer nos fournisseurs encore plus souvent. Donc ça, déjà, on peut nous souhaiter ça. Et puis on peut nous souhaiter que la marque trouve définitivement ou complètement son public. On est content, ça démarre très bien. Mais il faut évidemment qu'on ait un peu de notoriété pour que les gens aient le réflexe de se dire « Ah oui, très bien, bah oui, ce lounge chair de IMSS dont je rêve depuis longtemps, eh bien, je vais pouvoir me l'offrir et en bénéficier pendant quelques années et l'acheter ensuite pour quelques dizaines d'euros par mois. »
Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Franck.
Merci Hortense.
Merci, au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Il y a quelques mois, j'ai repéré sur Instagram ces vases en porcelaine habillés de chaussettes en tissu haute couture. Je suis sûre que c'est pas le terme, mais je vais être fixée dans 5 minutes, puisque je suis avec Elfie Pariente, la cofondatrice avec Grégoire Louzon de Singulier Origine. Bonjour Elfie.
Bonjour Hortense.
Alors comment tu nous décrirais ces vases ? On dit chaussettes ou on dit pas chaussettes ?
Eh ben entre nous, effectivement, on dit chaussettes, mais on s'est dit que c'était peut-être pas le mot le plus adapté pour vendre un produit quand même assez haut de gamme. Donc en fait, nous on appelle ça des fourreau.
Ok. Donc comment tu décrirais ces vases ? Là, on ne les voit pas, on se parle. Donc comment tu décrirais aux auditeurs tes jolis vases ?
Ce sont des vases en porcelaine qui sont faits à Limoges et qui sont habillés avec donc des fourreaux en tissu. Et la plupart de nos tissus, même quasiment tous, sont des tissus haute couture, upcyclés et français.
Mais d'où viennent ces tissus ? Tu les achètes ? Tu les récupères ?
Alors, on aimerait bien les récupérer, mais c'est pas si facile. En fait, on les achète auprès de grandes maisons françaises de tissus. On achète les chutes de tissus. Donc, c'est des tout petits métrages, voire vraiment des morceaux. Et c'est grâce à ça qu'on peut accéder, en fait, à des très, très, très beaux tissus haute couture, haut de gamme, qui seraient inaccessibles si on les achetait au mètre.
Et les vases, alors, tu les achètes ou ils sont fabriqués pour Singulier ?
Alors, évidemment, c'est assez fréquent de trouver des vases en forme de tube comme ça, mais nous, on les fait faire sur mesure parce qu'on a vraiment décidé des tailles pour que ça soit le plus joli et le plus harmonieux possible entre les deux formats de nos vases. Donc, on les fait faire à Limoges dans une superbe manufacture très, très, très ancienne qui a gardé tout son cachet.
Et pourquoi vous avez choisi la porcelaine de Limoges ?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on voulait faire quelque chose de beau dans sa totalité, donc avec vraiment des matériaux nobles. Mais aussi parce que vu qu'on habille nos vases avec des tissus, il fallait absolument que la matière ne soit pas poreuse. Et donc, en fait, la porcelaine nous donne cette garantie-là que l'eau ne passe pas à travers, alors que du grès ou une autre céramique aurait pu, au bout d'un moment, altérer le tissu, en fait.
Et cette forme cylindrique qui est unique aussi, vous n'avez qu'une forme, vous avez plusieurs tailles, mais qu'une forme, c'est votre signature aussi ?
Pour le moment, ça allait. On voulait quelque chose de très épuré, d'une ligne vraiment pure. Et effectivement, il fallait aussi que ça soit facile pour nous de pouvoir insérer le fourreau et que les gens puissent par la suite changer de fourreau. Donc, il fallait qu'il ne soit pas emprisonné dans une forme, le tissu. Donc, on est parti sur des tubes, mais en fait, on aime ce côté vraiment intemporel au niveau de la forme. On voit accès à quoi ? Actuellement, on voit énormément de formes de vases qui sont toutes d'ailleurs très, très, très jolies. Mais on voulait quelque chose d'intemporel, donc un tube.
Et alors là, on parle de vases, mais en fait, vous le déclinez aussi en lampes ?
Oui. Oui, oui, oui. En fait, on part de ces mêmes vases, d'ailleurs, qu'en fait, on perce après cuisson pour être sûr d'avoir une forme parfaitement cylindrique, pour pouvoir ensuite y apposer le globe et tout le côté, le cordon et le câble et tout ça.
Oui, parce que vous parlez de famille, ce terme, ça permet de créer des décors, en fait. Tu peux mettre ton vase avec le même fourreau et le même fourreau sur la lampe.
Oui, en fait, c'est ce qui nous a plu dans le concept. C'est qu'au départ, on cherchait vraiment une idée avec un petit plus innovant, vu que c'est quand même notre cœur de métier d'être créatif. On avait envie qu'il y avait une petite touche supplémentaire dans notre produit. Et donc, quand on a pensé au vase, on s'est tout de suite dit de le décliner en lampe. Et ce qui était joli, c'est que ça créait des familles d'objets qui avaient une unité, mais en même temps, grâce au tissu, chacun sa personnalité. Donc, ce qu'on aime et ce qu'on essaye de recommander aux gens, c'est de les collectionner. Déjà, un, c'est très beau, mais s'il y en a deux, trois, en fait, ça crée vraiment une famille d'objets. qui nous plaît beaucoup.
Alors, les tissus viennent des éditeurs, les vases de Limoges, mais qui fabrique l'ensemble, en fait ?
Alors, on a une couturière de talent qui nous façonne les chutes et qui les coud en fourreau. Et après, nous, en fait, à Paris, on réceptionne donc la porcelaine, quoi, plutôt à Levallois même, on réceptionne la porcelaine, on réceptionne les fourreaux, donc on récupère de notre couturière, et après, on assemble ça simplement à nos ateliers, et ensuite, on emballe et on envoie.
Ça prend combien de temps de faire un vase ?
Dans sa totalité, ouais. Avec la fabrication, alors je saurais te le dire, tout est fait à la main, donc ça prend vraiment du temps, parce que c'est des vases qui sont coulés. Donc il y a les temps de séchage, ensuite il y a les maillages, donc c'est vraiment un travail d'artisan, en tout cas pour la porcelaine. Et les fourreaux sont également faits à la main, donc il y a une doublure. Ils doivent tous être réajustés par notre façonneuse, parce que chaque tissu a une fibre différente, et vu qu'il faut qu'ils soient bien ajustés, vu qu'ils sont amovibles, on ne peut pas avoir de loupé, il ne faut pas qu'ils soient ni trop petits ni trop grands, donc en fait c'est vraiment du fait main à l'unité, donc ça prend quand même pas mal de temps.
Et ce sont des pièces uniques ?
Pour la plupart, oui, 95% c'est des pièces uniques. En fait, la chance qu'on a, c'est que quand on récupère des chutes, parfois on a un tout petit peu plus de métrage qui peut nous permettre de faire une petite famille d'objets avec une dizaine de pièces ou une quinzaine de pièces parfois quand on a de la chance. Donc c'est pour ça qu'on a deux collections. On a les collections familiales, c'est ce qu'on appelle celles qui ont justement plus de métrage et qui peuvent nous permettre de faire donc des familles d'objets. Et les collections exclusives qui sont vraiment des pièces uniques où on a vraiment une chute qui nous permet de faire juste un vase.
Est-ce qu'on peut avoir acheté un vase et changer le fourreau ? Est-ce qu'on peut acheter le fourreau seul ?
Oui, justement, c'est aussi tout l'attrait de ces objets déco-là. C'est que tous nos fourreaux sont amovibles. Donc, en fait, vous pouvez, quand vous achetez un vase ou une lampe, vous avez évidemment le fourreau de votre choix dans un premier temps qui est vendu avec. Et ensuite, vous pouvez, en ligne ou quand on est en pop-up, acheter des fourreaux supplémentaires pour pouvoir par la suite changer d'envie, d'humeur, de déco, de style, de saison, comme vous le souhaitez, en fait.
Et en parlant de pop-up, où est-ce qu'on peut vous acheter, enfin trouver les produits ?
Nous avons eu la chance d'avoir été sélectionnés pour faire partie des pop-up pendant 2 semaines aux Galeries Lafayette. C'était une super expérience. Actuellement, on n'a plus de pop-up dans les mois à venir, mais on est dans quelques boutiques en France. Et même d'ailleurs aussi en Islande, figure-toi, pendant que j'y pense. Donc on est en France, on est dans des boutiques comme La Scénographe au plateau numéro 8 à Paris, où on est chez Mon Amour aussi à Montpellier, et on a eu la chance d'être sélectionné par Les Petits Hauts, et donc on est dans quelques boutiques, on a quelques vases, quelques pièces uniques dans les tons roses, dans les jolies boutiques des Petits Hauts.
Et vous vendez en ligne ?
Et évidemment, on est en ligne sur notre e-shop.
On peut trouver tous les produits
Oui, une large gamme de produits sur notre e-shop, ouais.
Comment vous avez eu l'idée quand vous l'avez créé ? Quand a été créé Singulier Origine et comment est venue l'idée, ouais ?
Alors, Singulier existe depuis septembre 2019, donc ça fait bientôt un an et demi. L'idée est venue de mon associé, donc Greg, qui est aussi mon mari, mon binôme, tout quoi. Et c'est lui qui a eu cette idée de créer et d'habiller des vases en porcelaine. Au départ, on a fait des essais sur des vases qu'on avait chez nous, d'ailleurs, sur même des tubes en carton. On a fait des essais au départ et on a trouvé l'objet cool. Notre impératif pour créer la marque, c'était, comme je le disais tout à l'heure, on voulait, vu qu'on est créatif et directeur artistique de formation, on voulait avoir, à force de s'occuper en fait des marques des autres et de mettre en beauté et en lumière des annonceurs et des produits, on avait envie d'avoir le nôtre, à condition qu'il soit différent, en fait, que ça soit pas un produit qu'on a déjà vu. Il fallait qu'il y ait un petit plus. Donc, on a cherché pendant un an, en fait, un produit à développer. Et quand Greg a proposé d'habiller des vases avec du tissu, on s'est vite rendu compte que ça n'existait pas, en tout cas. On a cherché, on n'a rien trouvé de similaire. Et donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et on pensait que ça allait être très simple au début de faire des vases tubes. Et en fait, c'est très complexe pour un céramiste, parce que finalement, à la cuisson, ça bouge beaucoup. Et que c'est pas si facile d'avoir un tube qui soit droit et régulier aussi en termes de cuisson. Mais voilà, en fait, le projet est venu assez vite dès qu'on a vu que c'était très varié, qu'on pouvait associer plein de tissus et faire plein de possibilités différentes. On a adoré et on a foncé.
Donc vous le faites en parallèle de vos activités, c'est pas ton métier à 100%.
Non, c'est notre à côté. On appelle ça notre récré entre nous. Même si c'est un récré qui nous prend de plus en plus de temps, la chance c'est que 2020 a fait qu'on a eu moins de travail sur notre studio de design graphique et donc on a pu se concentrer plus sur Singulier cette année. Quoi. L'avantage c'est que c'était la première année donc ça tombe bien. Donc on a eu un petit booster de temps on va dire sur Singulier qui fait qu'on a pris ça à fond et on adore.
Pourquoi ce nom ?
Bah, tout simplement parce que justement, on voulait que ça soit des objets qui se différencient de ce qu'on peut voir tout le temps et beaucoup. Et donc, on voulait quelque chose de singulier, on voulait quelque chose d'unique. Et donc, voilà, on a trouvé ce nom-là.
Ok. Mais ben, merci beaucoup, Elfie.
C'était un plaisir. Merci, Hortense.
Au revoir.
Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Un partenariat solidaire entre Made.com et les résilientes d'Emmaüs Alternative, on ne s'y attend pas forcément. Je suis donc avec Alice Hager, directrice France de la marque Made.com, et Eugénie Delarivière, designer et chef de projet Les Résilientes, qui vont tout nous raconter. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Hortense.
Bonjour.
Peut-être qu'on peut présenter dans un premier temps Les Résilientes, Eugénie ?
Bien sûr. Alors Les Résilientes, c'est un studio de design un peu particulier parce qu'on est au sein d'une structure Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Alternative. Donc il faut voir en France le mouvement Emmaüs comme une fédération d'associations où chacun des groupes, il y en a presque 300 en France, sont tous indépendants les uns des autres avec une mission commune qui est de lutter contre la précarité. Donc nous, on est un chantier d'insertion basé en région parisienne. On a 30 ans cette année. Et notre particularité, c'est qu'on a à la fois un pôle social où on va accompagner des personnes qui sont en situation de précarité à travers l'accès au logement, un suivi RSA, toutes ces choses-là. Et on a aussi un chantier d'insertion basé à Montreuil, dont le principe est de faire de l'insertion par l'activité économique. Donc on va accompagner des personnes de 6 mois à 2 ans vers une insertion professionnelle durable. Donc nous, on est au sein de ce chantier d'insertion et on a une activité particulière qui est faire de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on travaille sur des collections d'objets et quelques accessoires de mode à partir de produits qui sont issus des dons faits à l'association Emmaüs Alternative et qui ne peuvent pas être vendus en l'état.
Merci. Et alors Alice, Made.com, un petit mot ?
Alors en quelques mots, Made.com, c'est la première marque de design en ligne en Europe. On a 10 ans, en fait, nous 10 ans cette année. Il y a 10 ans, 3 Français sont partis à Londres et ont créé cette marque. Et aujourd'hui, on est présent sur 9 marchés en Europe. Et l'objectif depuis le départ a toujours été de rendre le design accessible à tous. C'est la raison pour laquelle on a en interne finalement une équipe de 20 designers qui font tout depuis la conception, la phase fabrication et la phase production, de sorte que tout soit véritablement intégré au sein de Made. La seule chose que nous ne faisons pas, c'est, comme on dit dans notre jargon, le dernier kilomètre. Donc on ne fait pas la livraison, mais tout le reste chez nous est fait. Et une particularité, je trouve, importante à spécifier s'agissant de Made, c'est que depuis son origine, nous n'avons pas de stock. Nous produisons à la commande. Et ça, c'est quand même un point important. Et je pense que c'est forcément quelque chose sur lequel nous reviendrons quand on se parlera développement durable, responsabilité des entreprises et des marques. Mais ça, c'est vraiment quelque chose fort chez nous, qui est intrinsèque à la marque et sur lequel, étrangement, on n'a jamais véritablement communiqué.
Alors, comment s'est passée votre rencontre ? Qui était à l'initiative du projet ?
Alors, en fait, à l'initiative de ce projet, on a eu un marieur, quelque part. On a une personne qui s'appelle Romain Peton, qui est consultant en développement durable, que je connais depuis un certain nombre d'années parce qu'on travaillait ensemble avant dans la même agence. Et il était en charge du développement durable de cette agence et pour le compte des clients. Et il y a un an, Romain vient me voir au showroom pour prendre des nouvelles. Donc on se prend un petit café sur un canapé au showroom et on se raconte un peu nos vies. Et Romain me dit, écoute Alice, moi je voulais parler aussi d'un sujet. Il se trouve que je travaille depuis quelques temps avec une personne qui s'appelle Eugénie, qui est finalement la chef de projet et la designeuse du studio de design d'Emmaüs Alternative. Et donc ça s'appelle Les Résilientes. Et en fait, je suis convaincue qu'il y a des ponts à créer entre le milieu associatif et le monde des marques. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis en fait, naturellement, Romain, comme il sait très bien le faire, a planté une petite graine dans mon cerveau. J'y ai réfléchi et ensuite il nous a présenté avec Eugénie et l'histoire a démarré comme ça.
Alors concrètement, quel est le projet ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Donc après cette rencontre, en fait, l'idée c'était aussi de voir si ça a matché en fait, parce que c'est vraiment dans la manière dont on travaille en général, c'est vraiment des histoires de rencontres et de voir si on avait les mêmes objectifs, les mêmes envies. Le vrai fond du projet, c'est vraiment une rencontre entre le monde associatif et le monde de l'entreprise et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à une petite échelle, mais dans l'idée aussi qu'il y ait quand même un impact qui grandisse, faire un projet ensemble sur des sujets qui étaient communs Donc, on a travaillé sur un partenariat avec Made.com qui a une problématique, mais ça, Alice pourra vous en reparler, qui est qu'ils font de la vente en ligne, mais ils ont quand même des espaces physiques, des showrooms pour pouvoir rencontrer leurs clients et présenter les produits en vrai. Et en fait, ces showrooms, il y a beaucoup de j'ai envie de dire turnover, mais j'aime pas trop les anglicismes, mais beaucoup de pièces à changer et à remplacer chaque mois. Et chaque mois, ils se retrouvent avec des pièces à évacuer du showroom. Et donc, ils avaient déjà par le passé fait appel à différentes associations pour récupérer les pièces de ces showrooms. Mais finalement, ils cherchaient aussi un partenariat qui soit durable. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Mail.com au sein d'Emmaüs Alternative, avec un partenariat global pour l'association, qui est que chaque mois, on vient récupérer tous les produits qui sont déclassés du showroom et qu'on fait un tri après au sein de notre structure entre ce qui va être gardé pour les aménagements de nos locaux, pour pouvoir mieux accueillir les personnes que l'on suit au sein des pôles sociaux et du pôle économique. Une partie est distribuée en boutique pour pouvoir servir à notre activité d'insertion par l'activité économique. Et une partie est gardée par le studio des Résilientes pour pouvoir travailler sur une nouvelle collection et de voir comment est-ce qu'on peut allonger la durée de vie de ces produits-là.
En fait, la raison pour laquelle, quand Romain m'a parlé de ce projet la première fois, ça m'a interpellée, c'est qu'en effet, là où je pense qu'il y a rencontre, c'est quand il y a un problème et que ce problème peut rencontrer une solution. Et en fait, quand Romain me raconte ce que fait Eugénie, la manière dont elle travaille les objets abîmés, les objets déclassés de certaines marques, en l'écoutant, je me dis, en effet, nous n'avons pas de stock chez Made, mais nous avons ces pièces des showrooms qui doivent sortir tous les mois, et tous les mois, c'est à chaque fois le même combat pour arriver à faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sur le trottoir et à la décharge, et qu'on trouve quelqu'un, une association qui veuille bien les récupérer. Et on a également un deuxième problème chez Made, c'est que nous n'avons pas de stock, mais nous avons des retours clients. Quand les clients reçoivent des produits, soit le produit convient, ils le gardent, soit dans la livraison, au cours de la livraison, le produit s'est endommagé. Ça nous est tous arrivé malheureusement, un miroir, une lampe, etc. Et dans ces cas-là, évidemment, les clients nous retournent les produits. À date, ces produits, on les récupère, on les réceptionne et aujourd'hui, on les stocke dans un très gros entrepôt qui se situe dans le nord de la France. Et il faut être très honnête, ça n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui chez Made d'être malheureusement en capacité de réparer ces objets-là. Donc, on avait bien sûr monté des partenariats avec différents acteurs qui étaient capables de les réparer et qui ensuite les récupéraient pour leur compte, en faisaient des déstockages, etc. Mais si vous voulez, c'est un peu à date une solution qui est bancale. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée quand on m'a parlé des Résilientes, c'était de me dire, tiens, là, j'ai peut-être une solution concrète pour me permettre de résoudre ce sujet de volume de retour client dans le nord de la France. Et en plus, une solution créative, puisqu'elle passe par le design et puisqu'elle passe par une nouvelle façon de donner vie à ces produits. Et à terme, l'ambition de ce projet, c'est véritablement de se dire qu'on a une collection qui est pérenne et que demain, je vais sur made.fr. J'ai un onglet dédié Made, les Résilientes à cette collaboration. Et de manière finalement permanente, je peux avoir accès à ces pièces auxquelles les équipes d'Eugénie auront donné une seconde vie.
Alors Eugénie, toi tu as récupéré, qu'est-ce que tu as récupéré comme type de meubles et comment vous avez travaillé au studio ?
Donc en fait, après, chaque mois, on récupérait à peu près 200 kilos de matériel et d'objets, donc dans lequel on a fait le tri entre les différentes voies qui sont passées au sein d'Emmaüs Alternative. Nous, pour le studio, on a appliqué la règle qu'on s'applique tout le temps au sein du studio, c'est-à-dire qu'on a choisi de travailler à partir des matières qui étaient les plus abîmées. Donc on s'est concentré sur le produit tapis qu'on a reçu. On a dû recevoir dans le premier lot, je pense, une vingtaine de tapis, en fait. Et il faut savoir que dans le showroom, il y en a beaucoup qui sont présentés au sol pour permettre aux clients vraiment de se projeter. Mais du coup, ces tapis-là, au bout d'un mois, un mois et demi dans le showroom, bah, ils ont quand même des marques d'usage, d'usure assez flagrantes. Et du coup, on s'est concentré sur cette matière-là en essayant de se projeter, en disant, bah, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner une collection qui soit issue d'un seul et même typologie de produits. Comment est-ce qu'on peut faire une assise? Comment est-ce qu'on peut garder sous forme de tapis? Comment est-ce qu'on peut faire une lampe? Comment est-ce qu'on peut faire un miroir? Donc on a essayé de se projeter dans différents produits à partir d'un même produit.
Alors quel type de produit vous avez créé?
Alors on a fait donc quatre types de produits. La manière dont on a travaillé, c'est vraiment qu'on a commencé par détruire, pardon Alice, mais détruire les produits made, les tapis, pour comprendre comment est-ce qu'ils étaient faits et que c'est un peu la façon de travailler dans l'upcycling. Il faut vraiment se laisser guider par la matière parce que on est un peu tributaire de la matière en fait. Donc on a commencé par détruire. On a découpé, on a épilé, on a tondu pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme nouvelles caractéristiques à cette matière-là. Donc il y avait cette façon-là de travailler, et puis il y avait la façon aussi où avec Géraldine Tubéry, qui est notre chef d'atelier, on travaille aussi avec les personnes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. On a plus le rôle de direction artistique, en fait, c'est-à-dire qu'on va développer un concept qu'on va présenter aux personnes de l'atelier, et c'est là-dessus qu'on va vraiment travailler en équipe autour du développement des produits. Donc nous, ce qu'on a fait avec Géraldine, c'est qu'on a vraiment travaillé autour du concept de la réparabilité des objets, et tout ce qui est autour d'une notion qui s'appelle le kintsugi, qui est un savoir-faire japonais, en fait, qui a été développé. La légende dit qu'il y avait un empereur japonais qui avait des bols qui venaient de Chine, que ces bols avaient été brisés et qu'il les avait renvoyés en Chine pour être réparés et qu'ils étaient revenus avec des agrafes. Donc l'empereur était un peu déçu et avait fait travailler, en fait, ses artisans au Japon pour pouvoir trouver une nouvelle manière de réparer. Et les artisans étaient venus avec cette solution qui était une sorte de laque à l'or qui permettait de réparer les céramiques et les poteries et de finalement valoriser la cassure et l'usure. Donc tout ce qui se retrouve aussi dans tout ce qui est la philosophie du wabi-sabi, de vraiment valoriser les choses qui ont du vécu. Donc on est parti sur ce concept-là et après avec les contraintes d'avoir des typologies de produits. Donc on voulait une lampe, on voulait un miroir, une assise et un tapis. Et avec ça, on a travaillé avec l'équipe sur la destruction.
Donc est-ce que je comprenne bien, à partir de tapis, vous avez réussi à créer des luminaires, des poufs, je ne sais plus ce que tu nous disais.
Voilà, donc maintenant on présente dans la collection, il y a une quinzaine de lots. Donc dans ces lots, il y a 4 typologies de produits. Il y a des tapis qui ont été reprisés, en fait. Donc, on a regardé les tapis qui étaient les moins abîmés, là où il y avait juste certaines taches à certains endroits, que ce soit un scotch qui avait été posé ou quelqu'un qui s'était promené dessus avec une boisson. On est venu tondre, épiler ces parties-là et rebroder, en fait, en venant rajouter de la couleur ou se remêler dans les fils. Donc, en mettant vraiment en avant, en fait, l'endroit qui avait été abîmé. Il y a des poufs où on a appliqué la même technique, mais il y avait parfois, c'était les bords des tapis qui étaient très abîmés, les bordures. Donc, on a choisi d'utiliser cela pour les découper et créer des poufs dedans. Et pareil, on a tondu et rebrodé les parties qui étaient tachées. Il y a certains tapis qui étaient trop abîmés, donc on a choisi d'utiliser l'envers du tapis, donc de retourner les tapis dans l'autre sens et d'utiliser vraiment le dos pour, pareil, en faire des poufs. Et après, il y a certains tapis, par exemple, qui avaient beaucoup de motifs ou des choses qui étaient très fortes. Et par souci aussi de collection, on a utilisé ces tapis en venant découper dans les motifs pour en faire des miroirs. Et sur les miroirs, pour incruster, on a repris en fait les motifs avec une technique de glaçage des miroirs. Et ensuite, il y a les luminaires, où là, c'est vraiment passé aussi par la tonte et l'épilation des tapis pour aller chercher une certaine transparence dans la matière qui était un peu surprenante parce que du coup on se retrouve avec des produits qui sont très cocooning un petit peu parce qu'ils sont tout épais et puis après on vient dans la transparence chercher la lumière, donc c'est des appliques murales et qui sont faites complètement à partir de réemploi parce que ça c'est vraiment la règle qu'on se donne d'arriver à récupérer, donc le bois qu'on a utilisé aussi pour faire les caisses des luminaires sont faites à partir de bois réemployé. Sauf la lumière, parce qu'on ne joue pas trop avec l'électricité récupérée.
Donc, ce sont des pièces uniques. Alors, où est-ce qu'on peut... qui peut les acheter? Où peut-on les voir?
Alors, ce sont en effet des pièces uniques, à tel point que je pense que c'est toujours intéressant de raconter, parce que d'abord, les gens ne savent pas forcément, mais chez Maid, nos produits, naturellement, en fait, portent les prénoms des employés Maid. Et donc, quand on a fait la collection avec Eugénie, on s'est dit que pour nous, c'était la suite logique de créer une filiation, finalement, entre les produits Maid et cette première collaboration entre nous. Et donc, ces 15 pièces uniques portent toutes les prénoms des personnes qui ont travaillé pendant un an sur le produit, qui l'ont brodé, qui l'ont détruit, etc., etc. Et donc, en fait, à partir du 27 janvier jusqu'au 13 février, ces pièces vont être visibles en ligne sur made.fr. Elles seront également visibles dans nos showrooms de Paris et de Lyon, puisqu'on a décidé de faire des expositions pour pouvoir partager ça et que les gens aient l'opportunité de se déplacer et de les voir dans la vraie vie, dans le monde réel. Et l'objectif pour nous, c'est bien sûr de pouvoir les mettre en vente. Et donc, on a organisé une enchère solidaire pour cette première collection. On est en collaboration avec la salle de vente Agut, qui a décidé de nous accompagner là-dessus. Et donc, ça va être une vente aux enchères qui sera en ligne du 27 janvier au 8 février. Et donc, vraiment à la manière d'eBay, vous irez sur made.fr, vous regarderez les différents produits et vous pourrez décider d'enchérir sur telle ou telle pièce et tous les jours revenir pour voir si les enchères montent, si c'est vous qui, pour le moment, êtes en pole position pour récupérer la pièce ou pas. Et l'objectif, ensuite, c'est que tous les fonds récupérés par cette première vente aux enchères aillent directement au studio des Résilientes pour leur permettre de financer leur structure. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que dans cette approche, on est pour moi bien au-delà d'une approche de mécénat pure, parce que on est dans un partenariat qui fonctionne très bien dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, Eugénie, elle me rend service. Elle me rend service parce qu'elle me récupère tous les mois ces fameux 200 kilos qui aujourd'hui représentent quand même 2 tonnes au terme de cette première année. Elle me rend service, elle récupère ses produits et elle leur donne une seconde vie. Et chemin faisant, en fait, Eugénie, elle récupère les bénéfices de ces différentes ventes pour financer sa structure. Donc, on est encore une fois au-delà d'une simple approche de mécénat. Et je pense qu'on arrive à démontrer que, alors que de prime abord, sur le papier, tout nous opposerait. Dans les faits, on arrive à monter une collaboration qui soit autour du design et qui est finalement un business model économique qui se tienne. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas un one shot, comme on dit. C'est vraiment une première saison avec d'autres saisons à suivre, puisqu'on veut arriver à entériner ce modèle économique, à entériner cette approche et à en faire une collection pérenne que les clients puissent retrouver à longueur d'année.
Donc, Made, vous êtes sur la voie d'un design plus responsable.
Oui, c'est vraiment l'idée. En fait, comme je disais en préambule, dans la manière dont on a été pensé, conçu, on n'avait pas de stock. Pour nous, c'était une évidence de se dire que il fallait quand même être conscient que notre métier premier, c'était de rajouter des choses sur la terre. Donc, on s'était dit, on va essayer de quand même faire en sorte de limiter la casse quelque part et donc de ne pas surproduire et d'avoir des stocks et derrière de devoir liquider des étagères entières. Mais la réalité quand même, comme je le disais, c'est qu'on rajoute des choses sur la terre. Et donc, oui, c'est très important pour nous aujourd'hui de se poser les bonnes questions et de se dire comment est-ce qu'on peut envisager de continuer notre métier, de continuer à faire ce que l'on aime faire, à savoir du design, mais tout en prenant conscience que ces objets, une fois qu'ils sont créés, une fois qu'on les a quelque part livrés chez nos clients, ils vont avoir une vie, mais quelle vie ? Qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi ? Et ça, c'est des grosses questions sur lesquelles on travaille déjà depuis 18 mois au sein de Made. Donc, on avait déjà commencé à entamer ces conversations avant que je ne rencontre Eugénie. Mais en fait, ce que moi, j'aime beaucoup dans cette approche, c'est qu'Eugénie, elle a été un accélérateur pour nous. Parce que au départ, on était un peu les Français qui, au sein d'un groupe international, sont en train de monter un pilote. Et moi, je me rappelle très bien que mes homologues, gentiment, me regardaient en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce projet ? » et tout. Et dans les faits, aujourd'hui, là où je me dis qu'on a réussi, c'est que c'est un projet qui compte beaucoup à la fois pour les clients Made et puis pour le grand public de manière générale, mais en interne, on a vraiment bousculé les mentalités. Et aujourd'hui, tous les autres pays sont en train de chercher sur leur propre marché un équivalent d'Emmaüs Alternative et surtout des Résilientes. Et c'est pas chose aisée parce qu'en fait, les Résilientes, visiblement, il n'y en a qu'un. Et ils sont tous en train de vouloir développer exactement la même chose pour eux parce qu'on a 8 showrooms en Europe. Donc en fait, on a tout autant de... Enfin, on partage les mêmes problèmes et les mêmes sujets. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se diriger vers un design plus responsable. pour ce faire, il va falloir cocher plein d'autres cases qu'on n'aborde pas dans le sujet des résilientes, mais qui font aussi partie d'une approche plus holistique autour du design plus responsable. Donc, tout ce qui est relatif au sourcing des matériaux, tout ce qui est relatif à la production en tant que telle, à l'empreinte carbone, etc., etc. Donc ça, c'est de toute façon des projets qui sont menés à l'heure actuelle et sur lesquels on voudrait arriver à partager un maximum d'informations auprès de nos clients et de notre communauté. Mais il est vrai que sur le sujet de la seconde vie, moi, j'aime bien me dire que quelque part, le projet qu'on a lancé et cette collection encore qu'on lance avec Eugénie, c'est peut-être la première pierre à l'édifice du sujet de la seconde vie des produits made. Ouais.
Cette collection, elle s'appelle Encore, pourquoi ?
C'est vrai qu'elle s'appelle Encore, parce que pour nous, c'est une manière de donner encore vie à nos objets, encore, encore et encore. Et quand on s'est posé la question de baptiser cette première collection, on a beaucoup, 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 beaucoup discuté. On s'était dit, est-ce que tout simplement on l'appelle seconde vie, parce qu'en fait, c'est déjà quelque part une expression qui est entrée dans le langage courant et les gens arriveront à se le réapproprier. Et en fait, on s'était dit qu'on aimerait bien quand même trouver un nom qui nous appartienne et qui ait encore plus de signification que seconde vie, qu'on trouvait peut-être un petit peu trop littéral. Et en discutant, on s'est dit, mais ça doit être encore, parce qu'en fait, ce qu'on fait depuis un an, c'est donner encore une seconde vie à tous ces produits. Et en fait, on aimait bien la notion d'infini derrière encore. Voilà, c'est à l'infini. Encore, encore et encore.
Et puis moi, ce que j'aime bien aussi dans le nom encore, c'est que quand on est dans un concert et qu'on fait un encore, ce qui fonctionne aussi en anglais, c'est qu'on rappelle les artistes sur scène. Et donc, je trouvais ça intéressant de rappeler ces objets sur scène, en fait, en disant, bah, c'est pas fini, on peut refaire un tour de piste. Donc, on accompagne ces objets pour faire un dernier tour de piste avec nous.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup et bravo. Merci.
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 Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.